Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Envie d'entreprendre, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise du bassin de vie de Carpentras. Et nous recevons aujourd'hui pour cette émission Gérard Franchini, créateur et gérant de la société L'Atelier Franchini, située 1438 Route d'Orange à Carpentras. Bonjour monsieur Franchini.
Bonjour.
Et nous recevons aussi à nos côtés Olivia Franchini, responsable projet aux ateliers Franchini. Bonjour Olivia.
Bonjour Florian.
Alors, à mes côtés pour cette interview, nous avons aussi Stéphanie. Merci de m'accompagner pour cette interview. Alors tout d'abord, pour démarrer un petit peu cette émission, je vais commencer avec Gérard. Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de l'atelier Franchini? Je crois que c'est une ébénisterie. Vous êtes ébéniste, menuisier un petit peu, et vous concevez ou réalisez entre autres des meubles d'agencement, de style et de création. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Absolument. J'ai une formation de menuisier, ébéniste et marqueteur. La marqueterie étant le travail du plaquage sur les meubles en général, mais que l'on peut appliquer sur d'autres produits, on pourra en parler plus tard. Ma formation donc s'est passée d'une part sur Avignon. Ensuite, ça c'était pour la partie menuiserie. Ensuite, j'ai quitté la région pour aller dans la Haute-Garonne. Exactement à Revel, qui était à l'époque la capitale du meuble d'art en France, où j'ai appris donc l'ébénisterie et la marqueterie en option. Voilà.
Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'ouvrir cette entreprise? Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement d'ouvrir une entreprise?
D'ouvrir une entreprise, si on remonte à la source, j'ai pas tellement choisi, je pense. Parce que j'étais gamin, dans mon quartier, il y avait des menuisiers, il y avait des gens qui travaillaient le bois, parce qu'à l'époque, je vous parlais des années 70, à l'époque, il n'y avait pas une grande zone artisanale à Carpentras, elle était débutante. Toutes les entreprises, les artisans, tout ce tissu était intramuros, ce qui rendait Carpentras très, très vivante, bien sûr, avec beaucoup de proximité. Et les enfants, donc, moi, pour ma part, je m'attardais longuement, regarder travailler dans la rue les artisans à l'intérieur de leur atelier. Je regardais à travers les carreaux. Quelquefois, je m'autorisais un petit peu à rentrer. Et comme ça, j'allais, pas forcément ennuyer les gens, mais je passais d'un artisan à l'autre. Et j'étais déjà attiré par ça. Et je voulais faire comme eux, tout simplement. Je voulais faire comme les grands, c'est-à-dire être artisan. Et de ce fait, la vie m'a un petit peu aidé. Et j'ai pu donc commencer à faire la menuiserie, puisque l'ébénisterie n'était pas à proximité dans la région. En tout cas, ce que je voulais faire à l'ébénisterie. Donc j'ai dû après partir en pensionnat pour apprendre ce métier.
Donc tout un parcours, comme on le voit, pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. L'atelier Franchini, donc on peut rappeler peut-être le lieu, la superficie aussi de ce que vous avez actuellement sur Carpentras, et combien d'employés au total aussi?
Alors l'atelier Franchini, en infrastructure, c'est 1200 mètres carrés de fabrication. On a ensuite 480 mètres carrés de showroom et dépôt.
Donc en showroom, en partie showroom, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un showroom par exemple chez Franchini?
Donc dans le showroom, nous présentons les produits de notre fabrication, c'est-à-dire des cuisines, des bibliothèques, des dressings, du parquet. Donc tout ce que nous pouvons fabriquer, c'est un échantillon de notre savoir-faire, disons. On ne peut pas tout présenter, parce que nous faisons beaucoup de choses dans une maison. Donc on commence un peu des volets, si vous voulez, aux fenêtres, et finir par de la décoration. Tout ça, c'est un univers un petit peu particulier, un petit peu atypique. On ne trouve pas ça ailleurs. J'en rêvais depuis que je travaille, d'ailleurs, depuis que je me suis installé, de pouvoir faire le tour de la boucle. C'est-à-dire rentrer dans une maison par la charpente, si je puis dire, m'attarder sur les volets, réparer des volets ou les refaire, les fenêtres, accompagner les clients à partir de ce moment-là, jusque dans leur parquet, dans leur salon, leur lambris panoté en décoration, ou leur cuisine. Et ensuite, c'est vrai que c'était pour moi encore à l'époque, même très tôt, assez frustrant de laisser et de partir en posant une cuisine dans un endroit qui n'était pas terminé, ou un meuble, simplement. Quelquefois, je peux partir un petit peu à reculons. Donc. Et aujourd'hui, je peux proposer de m'occuper de l'environnement, par exemple, d'une cuisine, ce qui met en valeur nos produits, bien sûr. Lorsqu'on a des murs qui sont bien apprêtés, qui sont dans la bonne couleur, qui sont dans le ton, pas dans le ton juste, si oui. Je puis dire, ce qui est important dans la précision, et pouvoir sortir de ces pièces avec le travail accompli.
Stéphanie.
Oui, alors on peut dire que l'atelier Franchini est une entreprise familiale. Est-ce que c'était une volonté que vous aviez dès le départ de pouvoir peut-être transmettre cette entreprise à vos enfants? Parce qu'il y a aussi Olivia qui y travaille.
Et pour
Olivia, est-ce que c'était quelque chose d'assez naturel de venir travailler dans l'entreprise de votre père?
Alors, je vais parler pour ma part, mais non, c'était pas quelque chose de spécialement naturel, c'était pas une vocation, je me destinais pas spécifiquement à travailler avec mon père par la suite. C'est vrai que j'ai un parcours un peu différent, j'ai fait une école de commerce, je me suis spécialisée en management et marketing du luxe, donc j'étais plutôt dans des gros groupes multinationales auparavant, et c'est assez récent, ça fait un an que j'ai décidé de venir travailler et rejoindre l'entreprise familiale. J'avais envie vraiment de connaître la vie d'une PME, de voir si on pouvait se projeter ensemble avec mon père. Et puis, de toute façon, c'est un secteur qui est quand même très, très inspirant. Et puis, voilà, comme il en a parlé un petit peu plus tôt, le fait de pouvoir gérer vraiment des projets de A à Z et d'accompagner les clients vraiment de la conception à la réalisation de leurs rêves, parfois, c'est plutôt un métier que je trouve très, très beau.
Peut-être quelque chose à rajouter à ça.
Oui, je partage absolument ce que vient de dire Olivia, d'autant plus que j'ai voulu laisser mes enfants très libres, ne pas les orienter vers une voie ou une autre, ne pas forcément, le fils du médecin sera un médecin parce qu'il y a des livres de médecine dans sa bibliothèque, et je préférais leur laisser une ouverture plus large au monde extérieur, et qu'ils fassent bien sûr des études et qu'ils choisissent eux-mêmes, après mûre réflexion, ce qu'ils avaient envie de faire. Pour moi, le fait qu'ils reprennent pas l'entreprise, ça peut paraître bizarre, mais c'est pas une priorité. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Comme je le suis, comme je pense me réaliser dans mon métier, je souhaite qu'ils travaillent dans le leur et surtout qu'ils soient bien dans leur peau, quoi.
Alors l'atelier Franchini, donc, qui est situé 1438 Route d'Orange à Carpentras, on va le rappeler, à quel public il s'adresse, puisqu'on va parler dans quelques minutes aussi des différentes entreprises, donc les différentes entités qui existent aussi sous Franchini, mais l'atelier Franchini, à quel public il s'adresse?
Mais l'atelier Franchini s'adresse à tous les publics. Ce que je dis à mes ouvriers, le maître mot, c'est que quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ce que vous faites, faites-le bien. On ne va pas prendre en considération une maison, un château, un habitat simple. Ça n'a pas d'importance. On doit faire notre métier correctement où que nous soyons. Donc, de là, on travaille pour le public. On répare des portes d'entrée qui ont été abîmées. On essaie de faire des réparations, bien entendu, parce que c'est le cœur même de notre métier. On sait travailler le bois. Et quelquefois, les gens sont surpris de voir qu'on a réparé des portes et que ça ne se voit pas. Pour nous, c'est une grosse satisfaction quand notre travail ne se voit pas, bizarrement.
Tout à fait, oui.
D'autre part, on aime aussi en créer. On aime apporter notre touche, que ce soit dans le choix des matériaux, dans leur texture, dans leur modification, dans leur travail à l'atelier et à leur pose. Tout ce que nous fabriquons, nous le posons. C'est-à-dire, on fait des produits finis, on fabrique une fenêtre, on va la vitrer, on va la peindre, on va la sceller. Au moins, on est sûr de notre résultat et on s'engage vraiment dans la qualité à ce niveau. Ensuite, on a un éventail de travail qui est très large devant nous, puisque dans l'atelier j'ai une quarantaine de personnes, donc en tout entre les bureaux et la technique, j'ai des ébénistes, des menuisiers, des agenceurs. Tout ça sont des métiers un petit peu différents que je regroupe, mais il y a aussi des peintres, voilà, parce qu'on peint des meubles aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, on s'occupe de l'environnement, des produits que l'on pose, donc on conseille en peinture. C'est vrai que je me suis entouré également d'architectes d'intérieur qui dessinent les projets pour nos clients que nous devons ensuite réaliser ou pas, on pourra en parler plus tard. Je me suis aussi entouré d'un électricien, d'un plombier, des gens, c'est le métier, parce que moi, ce n'est pas mon métier. Donc, quand j'installe une cuisine, j'aime que les choses soient bien faites. Voilà, il nous faut absolument un bon caroleur, un plombier, un électricien, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui fassent un travail dans les normes. Pour ce faire, ils font des stages régulièrement au sein d'entreprises que l'on provoque. On fait de la formation continue de façon à être au courant des dernières normes et de ce qu'il faut faire pour bien le faire.
Et alors, on sent bien que vous êtes passionné et que du coup, votre entreprise, elle regroupe un grand nombre de métiers. Mais est-ce que vous proposez des formations au sein de votre entreprise, donc plutôt au niveau de l'ébénisterie ou de la menuiserie ?
Oui, absolument. On forme en permanence. Nous avons toujours 3 à 4 apprentis dans l'atelier qui font des stages d'un an, de 2 ans, ou qui restent plus parce que certains veulent apprendre la menuiserie, d'autres veulent poursuivre par un CAP de poseur ou d'agenceur, ou veulent faire donc un BTS au sein de l'entreprise. Et on les accompagne donc à ce niveau, puisqu'on a du matériel traditionnel de menuiserie, mais bien sûr, on a, comme aujourd'hui, dans la plupart des ateliers, du matériel numérique. Nous avons du matériel numérique de pointe, même, je peux dire, puisqu'on a un atelier qui, quelquefois, sert un petit peu de modèle au niveau empoussièrement, au niveau surface de travail et au niveau condition de travail.
Alors, il y a un savoir-faire. Est-ce que c'est assez mécanisé, justement, ou...
Alors, il y a deux choses. Oui, c'est mécanisé. Tout en sachant qu'il y a une partie de travail qui est mécanisée, c'est la partie usinage. C'est-à-dire, c'est la partie des assemblages. La partie qui était déjà mécanisée auparavant, mais pas aussi pointue, si je puis dire par là. Aujourd'hui, les machines numériques, ça vous regroupe 7-8 machines dans un atelier. D'où un gain de temps. Par contre, la partie montage, la partie réfection, la partie sculpture, la partie se fait toujours. On a toujours besoin de l'humain pour ça. Heureusement, on a toujours de gens qui ont le savoir-faire, qui connaissent leur métier, qui connaissent le bois, qui savent quel bois travailler à l'extérieur, à l'intérieur, qui savent dans quel sens se mettre à la machine. Une simple planche à raboter, ça ne se met pas dans n'importe quel sens. Et donc, lorsqu'on embauche d'ailleurs des gens à l'atelier qu'on ne connaît pas, il suffit de peu de temps pour se rendre compte si ça peut fonctionner ou pas, simplement en faisant raboter un bout de bois. Quoi.
Et justement, est-ce qu'il faut plusieurs années d'expérience ? Est-ce que ce travail peut intéresser les jeunes ? Vous avez souvent peut-être des jeunes qui viennent dans votre entreprise. Et quel conseil est-ce que vous pouvez donner aussi à un jeune qui souhaite s'orienter peut-être dans cette filière, dans cette branche ?
Oui, j'ai beaucoup de jeunes, c'est vrai. Je fais confiance aux jeunes parce que je pense qu'ils sont, ils sont porteurs d'idées nouvelles. Il faut qu'on les écoute aujourd'hui parce que nous, on a tendance quelquefois à s'enfermer dans le train-train. Alors j'ai très peur de ça. Et j'essaie de me tenir informé et d'être à l'écoute aussi. D'où Olivia, présente dans l'entreprise, qui apporte une plus-value assez importante à mon sens. Et ces jeunes, donc, on les accompagne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on laisse 2 ans à un jeune pour se former à apprendre un métier. Ça peut suffire dans certains métiers. Un métier de peintre, ça peut suffire, bien que si on va assez loin dans la peinture, c'est aussi insuffisant. Mais pour nous, pour faire quelque chose, réaliser quelque chose dans des temps corrects, je trouve que c'est insuffisant, d'autant plus qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque, on a des temps de travail qui sont réduits. On n'a que 35 heures pour former un jeune à la semaine. Bon, ils sont des heures aussi de formation à l'enseignement général, ce qui est très bien.
Surtout l'alternance, s'ils sont en plus à l'école et à la fois effectivement dans l'entreprise, forcément.
Absolument, absolument. Donc on a peu de temps devant nous, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, ils obtiennent leur CAP généralement. Je leur propose de continuer, soit vers l'ébénisterie, soit dans l'agencement, soit dans la poste, de faire encore 1 an ou 2 pour faire un bon ouvrier. Il n'y a pas de secret, il faut 5 ans. Il faut 5 ans pour ne pas avoir de lacunes, parce qu'on reçoit des personnes dans notre métier qui savent conduire une machine numérique, mais qui ne connaissent pas le bois. Et là, ça marche mal. Voilà. Ils ont des petites surprises, des portes qui se tordent parce que ils n'ont pas choisi la bonne planche, tout simplement, tout bêtement. En regardant le bois, il faut savoir la planche, il faut savoir ce qu'on va en faire. Et là, c'est vrai qu'il faut du métier, il faut de l'expérience, il faut le sentir, il faut le toucher, il faut le caresser, il faut l'aimer, quoi.
Et si on souhaite vous rejoindre, est-ce que vous recherchez des personnes en ce moment ?
Oui, je suis en recherche en ce moment parce que j'ai parmi mon équipe des personnes qui approchent de la retraite aujourd'hui. Donc c'est vrai que je vais être très bientôt en recherche d'un fabricant, quelqu'un qui a un peu d'expérience à ce niveau. On est en recherche de deux apprentis puisque les deux que nous avons resteront au sein de l'entreprise. Deux autres sont itinérants. Donc vont continuer leur route, leur tour de France. Je cherche aussi deux menuisiers poseurs, des vrais poseurs, parce que, et c'est important de dire ça, parce qu'on peut fabriquer un travail qui a duré 20 heures, 100 heures dans un atelier, et on peut bousiller ce travail à la pause. Donc la pause, c'est vraiment des poseurs ébénistes que je cherche, des gens qui sont méticuleux, pour plusieurs raisons. D'une part, pour ne pas bien sûr abîmer le travail, parce que lorsqu'on coupe, lorsqu'on rabote, si on enlève trop de bois, ça ne repousse pas. Donc c'est pas facile, ou ça peut laisser des cicatrices qui ne sont pas acceptables pour moi. Et d'autre part, il faut qu'ils travaillent proprement, parce qu'on travaille surtout dans des milieux habités, une clientèle qui est majoritairement de particuliers. Donc on rentre dans des maisons, et pour ça, mes ouvriers suivent une formation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire je les prends avec moi. On leur fait voir comment on travaille, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on se jette pas sur un travail, que ce soit sur une fenêtre ou un parquet, sans préparer l'environnement, d'une part pour la sécurité. Parce qu'il faut organiser, on leur apprend à organiser leur surface de travail avant de commencer à travailler. Très important pour nous. On travaille avec des outils qui sont dangereux, donc assurer leur protection. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va bâcher l'environnement dans lequel on va travailler. Il ne faut pas que l'on parte de là, la ménagère, et à passer l'aspirateur, oui, ou nettoyer tous les lieux, parce qu'on va travailler comme des cochons. Ça, c'est hors de question. Même si on a scellé une fenêtre, qu'on a fait du plâtre, on a fini, on a remis en état le tour de notre ouvrage. Mais le soir, il ne faut pas qu'on voit qu'on soit passé, quoi. Et ça, donc, c'est un apprentissage.
Et comme on dit, finalement, effectivement, les personnes vont voir la fin, l'étape finale, en fait, quelque part, le rendu, c'est à la fin qu'elles vont voir, effectivement, si le chantier est fini et propre.
Voilà, exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait les travaux de A à Z, qu'on scelle nos produits, pour ne pas décourager les gens à faire des travaux. Parce qu'à un moment, dans les années 90, au début, je me suis aperçu qu'on faisait moins de travaux pour le particulier. Je me suis inquiété, je me suis posé quelques questions. Je me suis aperçu que lorsque je faisais une fenêtre, par exemple, suivant qui l'a scellé, la ménagère, le couple...
Je ne sais pas la distinction. Je ne sais pas la différence entre vous ou le dernier intervenant, quelque part.
Déjà, si j'en avais trois à faire, il m'en commandait une, et pas les deux autres. Parce que l'expérience du chantier les avait traumatisés. Parce qu'à l'époque, on travaillait comme ça, c'était pas... c'était accepté, mais plus ou moins, mais de moins en moins, parce que tout évolue, tout change. Le bois avance aussi, notre métier change, le vôtre également, tout un chacun. Et donc, j'ai dit, il faut travailler autrement. Et donc, j'ai proposé ce service-là. Et là, pour le premier mois où j'ai embauché quelqu'un pour poser mes fenêtres, j'ai embauché à mi-temps. Et le premier mois, il a fait 181 heures. Ça veut dire vraiment qu'il y avait une demande.
Une forte demande, oui.
Donc ensuite, on a développé ça, et ça a très bien marché, puisque aujourd'hui, on est un effectif qui est beaucoup plus lourd, quoi.
Alors, on va continuer dans quelques instants cette émission. Ce que je vous propose, Monsieur Franchini, ainsi que Olivia, donc je rappelle qu'on est avec la société L'Atelier Franchini, donc située 1438 Route d'Ange à Carpentras. On va se retrouver dans quelques instants, juste après une courte pause. Et donc, on continue à parler de votre société. Donc, je rappelle, donc, vous êtes créateur et gérant de la société L'Atelier Franchini. À tout de suite sur l'antenne d'RTVFM. Et de retour dans l'émission Envie d'entreprendre sur l'antenne d'RTVFM. Toujours à nos côtés, nous avons Monsieur Gérard Franchini, créateur et gérant de la société L'Atelier Franchini, située 1438 Route d'Orange à Carpentras. Bonjour Monsieur Franchini.
Bonjour.
Et nous avons aussi Olivia Franchini, donc responsable projet aux ateliers Franchini. Merci d'être à nos côtés tous les deux. Donc on parle de votre métier, mais aussi donc de votre entreprise et de son évolution avec Stéphanie.
Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce qui différencie votre entreprise des autres entreprises qui sont sur le marché, dans la même branche que vous ?
Ah, bonne question. Tout. Je pense que dans le tissu artisanal du bois, nous sommes tous différents dans ce que nous faisons. Chacun a bon, nos spécialités. J'ai d'excellents rapports d'ailleurs avec mes confrères. Je m'intéresse à ce qu'ils font, ils s'intéressent à ce que je fais. Et on s'aperçoit en discutant qu'on a des clientèles, une clientèle différente, qu'on peut exploiter dans des clientèles qui n'ont presque rien à voir les uns avec les autres, tellement il y a une demande qui est large. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on soit si peu nombreux. Aujourd'hui, nous sommes peut-être, je ne sais pas compter, mais 5-6 dans la région à travailler le bois, dans l'artisanat. Et souvent, je me rends compte qu'on est obligé de faire découvrir le bois, découvrir le travail de l'artisanat aux particuliers, aux gens qui nous posent 2-3 questions. Et, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'acheter du tout fait, comme on a l'habitude d'aller dans un supermarché, on ne va pas forcément chez l'épicier, qui est de notre conseil. Je pense que nous sommes de notre conseil. C'est vrai qu'on n'est non plus pas dans le même métier que les grandes surfaces.
Oui.
On en est conscient et on s'en démarque, on en est fier, je pense. Ensuite, nous exploitons notre métier, comme je disais, tout différemment. Moi, dans mon métier, je suis peut-être le plus atypique, puisque je peux faire des menuiseries, j'expose ce que je fais, je finis par vendre des robes. Ce qui est un petit peu curieux.
Oui.
Pour moi, c'est d'une logique implacable. Quand on entend ça, bien sûr, ça fait sourire. Mais quand on s'intéresse au monde de l'art, donc à l'ébénisterie, et même une fenêtre, il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'on la fasse dans le style. C'est pas moins bien d'être ébéniste que d'être menuisier, que d'être agenceur. Mais il faut que ce soit dans le respect des lieux, dans l'harmonie des choses. Et puis ensuite, il faut qu'on le fasse aussi dans ce que souhaitent nos clients, qu'on colle un petit peu à leurs attentes, à leur art de vivre. On parle encore d'art. Mais ceci étant, si on se retourne un petit peu, on s'aperçoit qu'on parle aujourd'hui de mode, puisque l'ébénisterie, nous l'appliquons sur du matériel contemporain. C'est-à-dire qu'on va appliquer l'ébénisterie ou du travail de marqueterie sur des meubles très futuristes. Et aujourd'hui, pour être un bon laqueur, il faut être aussi un bon ébéniste. Le travail, la finition, vous savez, c'est au départ qu'on la prévoit. Quand on fasse un chantier entier, qu'on déplace des cloisons, qu'on les remodèle, qu'on travaille sur une seule porte, c'est au départ, c'est la préparation qui va faire qu'après on va faire une finition qui soit digne de ce nom. S'il n'y a pas de préparation, s'il n'y a pas de travail bien fait en amont, même en débitant, on ne peut pas penser à faire des finitions. C'est parce que nous, on sait ce qu'on veut atteindre comme finition, qu'on va procéder d'une façon ou d'une autre dans nos gestes, dans tout ce que l'on peut faire. Donc, et tous ces artisans qui m'entourent, tous ces artisans, et ce peu d'artisans malheureusement, parce qu'il faut savoir que dans les années 70, il y avait à Carpentras, si je ne me trompe pas, plus de 40 corporations du bois, entre les chaisiers,
ah oui, quand même,
les charrons, c'est-à-dire les gens qui font des échelles. Auparavant, on faisait des échelles pour des cerises. Il y avait d'ailleurs une entreprise Poggi qui était à Carpentras, en bas de la Porte d'Orange.
Et comment on peut expliquer cette diminution ?
Cette diminution, c'est que malheureusement, les échelles en bois pour les cerises, elles ont été remplacées par des escabeaux en aluminium, par des produits moins chers, que le travail, et je le regrette, à l'heure, revient cher aujourd'hui, on est conscient, c'est pour ça qu'on s'équipe à matériel numérique pour essayer de réduire les coûts de production, mais il est certain qu'on ne peut pas tout faire numérique, peut-être qu'une échelle, c'est plus compliqué, et que tant bien même, elle aurait encore plus cher que l'échelle en aluminium venue
d'un autre pays.
Atlantique,
alors, mais justement, voilà, donc tout ça, on l'a bien compris. Et est-ce qu'il y a des projets ? Alors, on parle de responsable projet. Olivia, vous êtes responsable projet. Donc, un projet, ça démarre peut-être par vous. Est-ce qu'on peut nous donner peut-être les étapes ? Et quel projet avez-vous travaillé dernièrement, peut-être aussi ? Sur quel projet ?
Alors dernièrement, nous avons travaillé dans un milieu d'hôtellerie de luxe, qui est d'ailleurs dans la région et qui flatte la région, je pense, et qui a ouvert ses portes. Malheureusement, la période de la Covid nous a retardé certains élans, disons, certains projets. On en a également souffert au sein de l'entreprise. Mais après cette période de confinement, ces hôtels ont pu ouvrir et ont eu beaucoup de compliments de par la qualité de leur service, de par la qualité des lieux, de par le confort. Le confort passe aussi par les yeux, on le sait. Donc ce sont de beaux endroits. On a encore un projet complémentaire pour cet établissement. Là, tout à l'heure, j'étais aussi en réunion avec une autre personne qui veut investir sur Carpentras. Bien sûr, ça fait toujours plaisir quand on est carpentracienne de souche.
Avoir des projets sur Carpentras.
Et je vois que les projets sur Carpentras, y en a, finalement. Et c'est dommage que nous vivions cette crise sanitaire, parce que je pense que nous aurions pu faire une belle année de 2020, que l'année 2021 peut être prometteuse. Et j'espère qu'on va tous sortir de là très très rapidement, parce que les gens sont impatients. J'ai l'impression que Carpentras est un théâtre où on a les acteurs en coulisses. Et tout le monde attend pour donner la représentation. Moi, je rentre dans des maisons chaque jour. Chaque jour, je rencontre des gens qui ont envie d'investir sur Carpentras, qui ont envie de faire sur Carpentras, qui ont envie de... Ce Carpentras est une belle ville. Les gens qui y sont nés le savent. Ceux qui la découvrent, le découvrent également. Et Carpentras mérite qu'on s'intéresse à elle. Donc, je sais que la mairie fait tout son maximum aussi pour améliorer cette ville, les rues notamment. Et tout ça, après, il faut des artisans, des commerçants, des investisseurs qui vont y croire. Et je pense que, oui, que les acteurs sont en coulisses et que ça va, il suffit d'une étincelle pour que Carpentras se réveille encore davantage. On a les bases, on a des infrastructures. Moi, je suis effrayé, si vous voulez, quand je vois des gens aller dans des grandes surfaces, que je nomme pas, mais où on retrouve ce qu'on a déjà à Carpentras. On retrouve un passage vitré, qui est le passage Boyer à Carpentras, qui est magnifique. On retrouve des allées comme ça, mais ça, on l'a intramuros. On retrouve des rues, on retrouve de l'intimité. On essaie de faire de l'intimité, et quelquefois, ils y parviennent. C'est pas... mais c'est, on recrée ailleurs, hors ville, ce qu'on a déjà sous la main. Pourquoi ne pas s'intéresser à notre patrimoine? Pourquoi ne pas le faire revivre? Pourquoi ne pas investir dans ce patrimoine? Il faudra aussi des grandes surfaces, bien sûr. On en a aussi besoin. Je ne dis pas qu'il faut les fermer, loin de là. Quoique, on pourrait aussi ouvrir les petits commerces en période de crise.
Justement,
c'est un gros débat.
Justement, de crise, je pense que Stéphanie, on va y revenir un petit peu, parce que vous avez dit que ça avait été difficile. Je pense qu'on va poser une question sur ça.
Est-ce que, du coup, le Covid a eu un gros impact sur votre activité?
Oui, bien sûr. En 2020, on a 11% de perte de chiffres. C'est quand même préoccupant pour un chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que, on n'a pas pu travailler pendant... une certaine période, des ouvriers ont été à l'arrêt pour garde d'enfants, pour cas contact, pour des obligations familiales, parce qu'il n'y a plus d'école, mais on sait bien tout ce que ça a provoqué à travers tout l'ensemble du territoire. Des gens, et je les comprends, dans cette période-là, surtout dans le premier confinement, ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, de quoi on parlait, étaient quand même dans la retenue et ne souhaitaient pas forcément nous voir venir chez eux, avoir du monde chez eux, installer une menuiserie ou autre, ou un meuble. Ils disaient, bon, ça peut attendre, la cuisine, elle attendra 2 mois, c'est pas grave, mais au moins, on ne prend pas de risque. Ensuite, c'est vrai que je pense qu'on a prouvé, et toutes les entreprises ont joué le jeu à ce niveau, tout le monde a pu se rendre compte, quand on rentre dans un magasin, il y a des panneaux, on se désinfecte les mains, on porte des masques. Nous, lorsque nous arrivons sur les chantiers, nous désinfectons le chantier, on le bâche, on travaille, quand on part, on redésinfecte après nous, donc on travaille si possible avec des gants, les gens se sont aperçus petit à petit, mais dans tous les domaines, que finalement on pouvait peut-être continuer à vivre et que c'était pas nécessaire de s'enterrer pour passer cette pandémie. Alors c'est si bien que pour nous on a aussi à Carpentras une boutique en face de l'entreprise qui est zélée. On a aussi une boutique en ville, donc des boutiques ont été fermées et c'est vrai que ça nous a impacté. Ça m'a obligé à mettre certaines personnes au chômage partiel. Je l'ai fait l'amour dans l'âme, mais je ne pouvais pas faire autrement. puisque on n'a plus d'outils de travail. Et voilà, donc on revient à parler des vêtements et du style.
Justement, on va y venir dessus dans quelques instants. Mais est-ce que vous avez diversifié votre entreprise, justement, dans différents domaines? On a entendu parler de Zélé à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et pourquoi vous avez diversifié votre entreprise ces dernières années?
Diversifier l'entreprise, dans un premier lieu, c'était dans une notion de service. On savait faire quelque chose, on nous le demandait. Bon, on était dans le service. Ensuite, pour faire grossir l'entreprise, il est certain que le marché qui s'offrait face à nous n'était peut-être pas suffisant pour répondre à nos attentes d'évolution, à savoir, tout le monde le sait bien, lorsqu'on stagne, on recule. Parce qu'on fait sur place, ça recule finalement. Donc il fallait se donner les moyens d'avancer. Il fallait se donner les moyens, surtout, ce qui a été le moteur pour moi, c'est d'investir dans du matériel pour amener du confort dans le travail. Je trouvais que le travail tel que je l'ai connu était pénible, casse les corps. Et ce n'est pas un but quand on a une passion, quand on a un métier, c'est un but, ce n'est pas de se faire mal. Donc je voulais absolument amener des conditions de travail et une aisance dans le travail qui soit plus une partie de plaisir, puisque c'est vrai je me suis toujours fait plaisir dans mon métier, mais je suis comme l'olivier, hein, je dis souvent, si on m'arrose pas, je vis, mais si on me donne de l'eau, j'ai une belle vie aussi. Donc ceci étant, il fallait que j'investisse, vu la taille de l'entreprise n'avait pas les moyens d'investir. On ne faisait pas assez de chiffres pour ça, je n'ai pas assez de marge pour investir. Donc je me suis dit, il faut aller de l'avant, il faut diversifier. Donc on a diversifié dans divers produits, le traitement de bois. On a proposé également un éventail plus large de ce qu'on faisait. On est allé sur les plates-bandes, sur les marges à côté, pour voir ce qu'on pouvait amener encore à nos clients. Et la création donc, du concept store, Zélé, où ça nous a permis d'agrandir notre showroom, de faire voir nos savoir-faire, et surtout de faire un vrai concept store, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de proposer des objets de décoration. Lorsqu'on fait une bibliothèque, ben, si on trouve chez nous le vase qui va bien dessus, ben, pourquoi pas. Et si on trouve aussi chez nous le conseil du bon produit, pourquoi pas aussi. Et de là, on est allé jusqu'au bout, on propose une ligne de vêtements. Et on parle encore de style, comme on parle de style dans le bois. Et tout ça, si on regarde bien, tout le monde regarde des émissions à la télévision ou autre, certaines sont passionnantes, et parle de couture ou autre. Moi, je fais toujours le parallèle avec le bois, parce qu'après, quoi, on a des gens qui parlent d'histoire aussi à la télé, il y a des émissions donc culte aujourd'hui, oui. Et qui parlent d'histoire, et qui parlent aussi de vêtements dans l'histoire. On voit comment les gens sont habillés, on voit où ils vivaient, où ils évoluaient, on voit leur environnement, on voit... Eh bien, tout ça, c'est, pour moi, c'est un petit peu lié. Et ça vient aussi que j'ai un membre de ma famille qui m'a un petit peu aussi élevé et qui est couturière. Donc, j'ai grandi entre le menuisier du quartier, ma tante, qui était couturière, et je voyais de suite, gamin, le rond de robe, s'il n'était pas...
D'où vous est venue cette envie?
Le style de ces années-là, c'était les robes plissées un peu longues qui étaient. Et quand le rouleau était pas rond, je savais le dire. Donc, et la mode m'intéressait. Voilà. D'où aussi cet amalgame que j'ai pu faire et en arriver là aujourd'hui.
Et pourquoi avoir appelé votre concept store Zélé?
Ben, Zélé, c'est en fait, quand on regarde dans le dictionnaire, quelque part, je ne me souviens pas de la définition exacte, mais c'est l'envie de bien faire. Voilà. Donc, comme c'est ce qui nous anime, on essaie de faire bien. Quelquefois, ça ne marche pas. Ce que je dis à mes ouvriers, ne vous inquiétez pas. À l'atelier, on voit que ce n'est pas ce qu'on souhaitait, ce n'est pas ce qu'on a dessiné, mais ce n'est pas grave. Je leur demande d'avoir du panache et de recommencer. C'est dur de recommencer quelque chose quand on l'a fait déjà une fois. Hein. Mais ayez le panache, recommencez-le. Et là, vous allez voir, vous allez être content de vous et content de l'avoir refait.
Alors, quels sont peut-être les exemples de chantiers, de choses qui sont faites avec Zélé?
Ah, avec Zélé, donc, c'est deux architectes d'intérieur, une responsable de la boutique qui est Sylvie Rembert, qui a beaucoup de talent aussi, il faut le dire, c'est pour ça que ça fonctionne, je pense. Et Zélé propose des environnements de décoration de votre habitat. Vous le mettre sur écran, en 3D. D'abord, bien sûr, après différents contacts, vous réalisez la vue de l'esprit que vous avez, si je puis dire, et va le réaliser sur l'écran ou sur papier, de façon à le concrétiser, à savoir si c'est bien là que vous avez envie de vivre. Zélé donc va vendre sa prestation, bien entendu. Si d'aventure le client n'a personne pour la réaliser, ben, l'atelier Franchini est là pour le réaliser. Si le client souhaite le faire ailleurs, c'est très bien. Le tout, c'est que ce projet puisse aboutir et que les clients trouvent des personnes pour le réaliser. Et je pense qu'il y a des gens sur le marché qui savent faire.
Tout à l'heure, vous nous avez un petit peu parlé de votre boutique avec notamment des vêtements, mais est-ce qu'on peut retrouver autre chose sur cette boutique en ligne ?
Oui, bien sûr. On a un e-shop qui donne une large possibilité et une large gamme, disons, de produits qu'on essaie d'enrichir tous les jours. Et d'ailleurs, à toute chose, il y a quelque chose de bon. On a traversé donc cette période de Covid et là, on s'est aperçu qu'on n'était pas bon sur les ventes en ligne, alors que les grandes marques, elles, étaient déjà donc, préparées à ça. On s'est aperçu, on en parlait, mais ça ne se faisait pas forcément. Mais là, ça nous a permis de nous botter un petit peu les fesses et d'avancer. Et, comme disait Jacques Brel, être un peu moins bête à chaque jour, c'est se botter le cul tous les matins pour avancer, quoi, pour se lever. Et donc, on peut reprendre ça et se dire que, ben, après, on n'a pas été bon assez tôt, puisqu'on n'a pas anticipé la crise. Peut-être que pas grand monde l'aurait anticipé, mais on aurait été meilleur, on aurait pu le faire.
Donc Zélé a été créé en 2015, si je ne me trompe pas, et vous avez ensuite aussi créé récemment FTC Charpente. Alors là, qui s'occupe d'FTC Charpente ?
Alors ça, c'est Olivia, à qui je vais laisser présenter.
FTC Charpente, donc venu. Olivia, donc ça c'est une nouveauté chez les ateliers Franchini ?
C'est ça, donc c'est un petit peu, c'est encore une diversification, mais dans un autre sens, puisque Zélé était plus pour accompagner en fait notre clientèle déjà existante, et vraiment dans une volonté de pouvoir gérer des projets de A à Z, et que les clients nous passent les clés de chez eux, on s'occupe du reste, on n'a pas plusieurs interlocuteurs, on reste avec une entreprise qui sait, qui connaît son métier, et ses métiers en fait, ses savoir-faire. Là, donc l'année dernière, on a décidé de lancer FTC, donc France Traitement Charpente, qui est en fait spécialisé vraiment dans le traitement des bois et l'isolation des combles. Si on a décidé de lancer ce service maintenant, c'est également parce qu'en fait, on est déjà spécialisé dans le bois. On le connaît très bien et on l'aime au sein de l'atelier Franchini. Donc on voulait pouvoir communiquer davantage sur ce service-là qui est complètement différent de l'ébénisterie, de la menuiserie. C'est un savoir-faire tout à fait autre. Là, on va offrir un service dont les clients ont besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire traiter sa charpente parce qu'on a une attaque d'insectes xylophages, donc des mangeurs de bois. On a des besoins d'isoler nos combles parce qu'on se rend compte qu'on a une grosse déperdition de chaleur au sein de nos foyers. Donc en fait, voilà, c'est vraiment pour répondre à des besoins actuels. Et c'est vrai qu'il y a une concurrence, il y avait beaucoup d'entreprises qui se lançaient sur ce secteur-là. On sait qu'il y a une concurrence qui est parfois pas... des entreprises pas très... pas au top, on va dire... Voilà, de ce côté-là, et on voulait pouvoir apporter fiabilité et sécurité à nos clients et donc leur proposer un service adéquat.
Donc ça a été une période un petit peu difficile, ce lancement, sur cette première année, puisque vous arrivez en plein premier confinement, lancement. Donc est-ce qu'on a déjà des retours ? Qu'est-ce que ça donne un petit peu ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce n'était pas la période idéale pour se lancer, mais on l'a fait et on a déjà de bons retours, puisque cette année, on a fait plus de traitements de charpente et d'isolation qu'on a pu faire l'année précédente, par exemple. Donc on a déjà pu voir une petite augmentation. Et on compte vraiment sur l'année 2021 pour pouvoir davantage communiquer sur FTC.
Et prendre son envol un petit peu sur le long terme.
D'ailleurs, on a une nouvelle à communiquer aujourd'hui, puisqu'on a eu une breaking news hier. FTC a eu l'obtention du label RGE.
D'accord.
Donc, c'est vraiment un énorme atout pour nous et pour nos clients, puisque grâce à ce label, on va faire bénéficier nos clients de toutes les aides financières que propose l'État actuellement. Donc c'était vraiment essentiel.
Donc un gros avantage pour ceux qui viendraient chez vous.
Tout à fait.
Et si on entre un petit peu plus en précision dans le traitement des charpentes, si dans le cadre d'une intervention, quelles sont les étapes pour traiter les charpentes des insectes xylophages ?
Alors là, on va plus rentrer dans la partie technique avec Gérard Fouacchini.
En fait, il y a les deux. Il y a une partie peut-être les traitements préventifs ou curatifs. Il y a plusieurs choses à gérer.
Voilà, en fait, en premier lieu, il y a une visite du chantier, bien entendu. Donc, connaissance du bois. On identifie de quel bois il s'agit, du chêne, du sapin ou autre. Parce qu'il faut savoir que l'insecte xylophage qui attaque un résineux n'attaquera pas un feuillu. Il faut savoir de quoi on parle déjà. Identifier si l'attaque est active ou pas, avec l'aide bien sûr du propriétaire des lieux, qui est pour nous de précieux renseignements, qui sont de précieux renseignements. Ensuite, de là, un métré qui est fait, savoir comment on va travailler, si on va travailler à 3 injecteurs au mètre ou à 6, suivant la section des bois, c'est important. Il faut savoir qu'il faut faire des forages dans ces bois, donc une cadence assez régulière pour injecter du produit, puisqu'on travaille par injection. Ensuite, bien sûr, un devis est proposé. Si le client le souhaite, il nous rappelle. On ne fait aucun harcèlement au téléphone, c'est pas mon truc. Donc, s'il le souhaite, il me rappelle. Une fois qu'on lui a présenté le travail que nous pouvons faire, il nous renvoie le devis, et à ce moment-là, on intervient. Donc, en faisant bien sûr un bûchage qui est obligatoire. On travaille suivant les prescriptions qui sont en vigueur, parce qu'on fait des stages auprès d'organismes qui sont reconnus nationalement. Olivia d'ailleurs a fait aussi ce stage-là. Et donc on a un process à mettre en place et à respecter. Donc on gratte des bois, on les cheville, on met des injecteurs, on les injecte et on les pulvérise. Il faut savoir que l'injection est un moyen curatif, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi, il faut que ce soit accompagné de moyens préventifs. Parce qu'il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de se débarrasser efficacement des insectes xylophages, mais qui ne sont pas préventifs. Donc demain, un autre insecte vient, répond et ça recommence, c'est un coup d'épée dans l'eau. Là, on travaille avec des solvants, des produits solvantés. Je ne travaille pas avec des phases aqueuses, je ne préfère pas, vu l'expérience que j'en ai. Oui. J'ai jamais eu de problème avec ces produits-là, donc je suis fidèle à ça. Je n'ai pas une équipe qui gagne. Et on pulvérise donc bien entendu les bois. Bien sûr, tout ça va aussi avec une protection des combles. On ne va pas piétiner dans l'intérieur des combles ou autre. On va faire des chemins de passage avec des planches en bois que l'on va visser pour épargner l'intérieur. Ou le plus souvent, on l'enroule, on la met dans un coin, on traite et ensuite on la redéroule. Alors, si la laine de verre n'est pas assez efficace, on en informe mieux sur nos clients et s'ils le souhaitent à ce moment-là, on peut le remplacer.
Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres traitements du bois que vous réalisez au sein de FTC ?
Non, on est spécialisé dans le traitement des charpentes, des insectes xylophages et ensuite on s'en tient là, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a des projets d'isolation ? Vous avez aussi une partie projet d'isolation des combles. Comment ça se passe, ces étapes-là ? Qu'est-ce que vous utilisez comme matériau, peut-être pour isoler aussi les combles ?
On utilise de la laine de l'isolant soufflée, si vous voulez, de la laine de verre, du chanvre. On peut utiliser divers matériaux écologiques. On peut utiliser de la laine de verre déroulée, bien entendu, également. Voilà pour l'essentiel de l'isolation.
On va parler aussi peut-être de devis, Stéphanie.
Oui, il me semble que vous réalisez aussi des devis gratuits.
Oui, absolument.
Oui, si vous avez envie, si vous avez besoin d'une confirmation sur une attaque potentielle, que ce soit sur votre charpente, des bois, ou alors tout simplement si vous avez peut-être envie d'avoir un contrôle sur l'énergie qu'il y a dans votre maison, et donc une isolation potentielle. On a nos experts qui viennent, qui se déplacent à votre domicile, qui vont faire vraiment un état des lieux de votre domicile pour vous proposer un devis qui, effectivement, est gratuit, qu'on vous remet, et vous êtes libre par la suite de venir faire appel à nous ou pas, sachant que voilà, on ne fera jamais de démarchage, on n'est pas dans cette optique-là, on vous laisse venir à nous et on sera ravis de vous rendre service.
Alors, ce qu'il faut bien préciser aussi, si la charpente est endommagée, vous ne pouvez pas la remplacer. Comment ça se passe un petit peu? Si elle est malade, oui, mais il ne faut pas qu'elle soit morte. Donc c'est pour ça qu'effectivement...
On soigne un malade, ce n'est pas un mort. Quelquefois, il arrive qu'on arrive trop tard. La charpente donne des signes de faiblesse ou l'attaque est si importante que le bois n'a plus de résistance mécanique. Et là, notre responsabilité est engagée. On ne doit pas traiter des bois qui ne sont pas traitables. Si notre action n'aboutit pas sur un résultat, on ne peut pas le faire. Aussi bien, quelquefois, il m'arrive de voir des charpentes qui n'ont rien. Les gens sont inquiets, ont entendu un petit bruit ou autre, ou ont vu deux trous. Je trouve quoi, moi, sur place, pas de trous d'insecticide, pas de surge. Ce qu'ils ont pris pour des insecticides sont des trous de pointe qui ont été posés pendant la construction, ou des impacts divers, et qui ne correspondent pas du tout à une attaque xylophage.
D'où l'importance de faire appel à un professionnel.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous avez des projets pour faire évoluer votre entreprise ou vos sociétés en général dans le futur ?
Les projets, oui, bien sûr.
J'ai toujours
vécu avec des projets. Donc j'espère pouvoir arriver à continuer à vous faire évoluer mon entreprise. Faire des petits agrandissements, notamment sur... Dans la surface de vente de la boutique Zélé, nous manquons de place. Or, il y a un stock derrière qu'on pourrait déplacer en construisant un autre local pour le stock et récupérer de la surface de vente pour la boutique. C'est le souhait de mes collaboratrices, en tout cas. On va essayer de se diriger tout doucement vers ça. Pourquoi pas aussi ouvrir une autre boutique.
Alors nous arrivons au terme de cette émission et pour faire un rappel un petit peu de ces plus de 45 minutes où nous avons échangé sur les différentes sociétés, j'aimerais en quelques phrases que l'on me rappelle peut-être l'atelier Franchini, qu'est-ce que c'est, comment vous contacter aussi pour l'atelier Franchini, adresse mail, site internet, et qu'on fasse de même aussi donc pour Zélé et pour FTC Charpente.
Alors l'atelier Franchini, vous pouvez voir le site internet sur atelier-franchini.fr et nous contacter par téléphone au 04 90 60 08 42. Donc entreprise de menuiserie, ébénisterie et agencement d'intérieur. Ensuite, vous pouvez également aller consulter le site internet de Zélé sur zélé.fr ou nous contacter au 09 67 09 63 32. Sachez que c'est un concept store, un cabinet d'architecture d'intérieur et qu'il y a également un e-shop. Et ensuite, pour te clôturer, FTC France Traitement Charpente, donc disponible sur le site internet ftc-charpente.fr et on est joignable au 04 28 703 703 pour tout ce qui est traitement de charpente et isolation des combles.
Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de votre passion, monsieur Gérard Franchini, d'avoir parlé de l'atelier Franchini. C'était passionnant avec Stéphanie. On a pu échanger un petit peu sur cette interview, cette émission même, que je vous propose, vous auditeurs, de retrouver en intégralité en podcast, donc sur notre site internet et directement sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc je rappelle, on parlait de la société donc de l'atelier Franchini situé 1438 route d'Orange à Carpentras. Merci monsieur Franchini. Donc je rappelle que vous êtes le gérant et le créateur de cette société. Merci à Olivia donc qui vous accompagne, qui est aussi votre fille, on peut le dire, donc responsable projet aux ateliers Franchini. Merci à tous les deux.
Merci
au plaisir.
Beaucoup.
Merci.